Vous écoutez RFI, soyez les bienvenus. Il est 18h à Paris et Khartoum, 16h temps universel.
Le journal
en français facile.
Margot Ratézic.
Et à la une de votre journal, 2 ans de guerre au Soudan, des dizaines de milliers de morts, 13 millions de Soudanais déracinés, déplacés et réfugiés. Nous ferons le point avec notre correspondante sur la conférence qui s'est tenue à Londres en soutien aux populations. Nous nous intéresserons aussi aux discussions autour du nucléaire iranien. De nouveaux pourparlers sont annoncés samedi entre Washington et Téhéran. L'actualité en France, c'est ce constat alarmant que dresse le Premier ministre François Bayrou sur les finances publiques. Objectif 40 milliards d'euros d'économies en 2026. Le conflit au Soudan entre ce mardi dans sa 3e année. Depuis le 15 avril 2023, de violents combats opposent l'armée régulière aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Une guerre sur fond de famine et de violences sexuelles. La plus grave catastrophe humanitaire actuelle selon l'ONU. Et après 2 ans de conflit, Londres accueille une conférence pour attirer l'attention de la communauté internationale sur cette guerre. Une vingtaine de partenaires européens et africains sont réunis. Objectif, trouver un chemin vers la paix et soutenir les populations affectées. Emeline Vin.
En amont de la conférence, le gouvernement britannique a annoncé 140 millions d'euros d'aide humanitaire, colis alimentaires et assistance aux victimes de violences sexuelles au Soudan. L'Allemagne a également débloqué 125 millions, 50 pour la France. La conférence espère ainsi soutenir quelques 650 000 Soudanais affectés par le conflit en cours depuis 2 ans. Le soutien humanitaire et l'aide au développement doivent être renforcés, assure ce jeudi le ministre britannique des Affaires étrangères. David Lammy estime qu'une grande partie du monde continue de détourner le regard du Soudan. Et c'est le deuxième grand objectif de cette conférence, relancer les pourparlers de paix entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR. Ni l'une ni l'autre n'ont été invités à Londres, ce qui a fortement déplu d'ailleurs au gouvernement soudanais, qui s'indigne que les Émirats arabes unis soient invités à Abu Dhabi, étant soupçonnés d'armer les FSR. David Lammy insiste, ce qui manque, ce ne sont pas les financements, c'est la volonté politique, et compte peser sur les alliés des deux parties au conflit pour se rapprocher d'un cessez-le-feu. Emeline Vin, Londres, RFI.
Et vous pouvez réécouter à tout moment l'édition spéciale de RFI « Guerre au Soudan après 2 ans de chaos, le désastre humanitaire ». C'est sur notre site internet rfi.fr. Le gouverneur régional de Soumis, limogé, renvoyé. Soumis, c'est cette ville du nord-est de l'Ukraine, frappée par une attaque aérienne russe ce dimanche. Bilan 35 morts, des dizaines de personnes blessées. Et après cette frappe, le gouverneur de la région a été accusé de négligence sécuritaire, autrement dit, d'avoir mal agi. C'est lui qui avait donné l'autorisation pour la tenue d'une cérémonie militaire à Soumis, événement en plein centre-ville avec une population dense, importante, et c'est cet événement qui, selon certains responsables ukrainiens, aurait servi de prétexte à la Russie pour attaquer la ville. Le secteur automobile se porte mieux en bourse. L'action du constructeur Stellantis est en hausse ce mardi. Une embellie, une amélioration qui intervient après les dernières annonces de Donald Trump. Le président américain a ouvert la porte à un compromis, un assouplissement autour des lourdes taxes sur les importations de voitures. Des taxes toujours en vigueur pour le moment. Prudence toujours de mise, donc, pour le président de Stellantis, John Elkann, qui critique à la fois la politique américaine et européenne. Je vous propose de l'écouter.
With the current path of painful tariffs,
la trajectoire actuelle avec des droits de douane douloureux qui s'ajoutent à des réglementations trop rigides met en péril les industries automobiles américaines et européennes.
Are being put at risk.
Aux États-Unis, l'industrie automobile est gravement touchée par les barrières douanières. En plus des droits de douane de 25% sur les véhicules, nous sommes aussi touchés par les droits de douane sur l'aluminium, l'acier et les pièces détachées. En Europe, la réglementation sur les émissions de CO2 impose une trajectoire irréaliste vers l'électrification qui est déconnectée des réalités du marché. Mais il n'est pas trop tard. Nous voyons un signe encourageant dans les déclarations du président Trump hier sur les droits de douane pour l'industrie automobile.
For the car industry. John Elkann, président de Stellantis. Ali Khamenei salue les discussions avec les États-Unis sur le nucléaire iranien. Le guide suprême se dit toutefois sceptique, perplexe sur leur issue. Après de rares négociations samedi à Oman, de nouveaux pourparlers sont annoncés en fin de semaine ce samedi. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient a d'ores et déjà détaillé les grandes lignes. Noah Perret.
Vérifié, oui, mais pas démantelé. Pour la première fois, l'administration Trump annonce ce qu'elle veut concernant le nucléaire iranien. Ce dossier divise la Maison-Blanche. On a d'un côté ceux qui soutiennent une position extrême défendue par des pays alliés comme Israël, de l'autre, une position plus souple. Et étonnamment, c'est la moins extrême qui a été choisie. D'abord, Washington veut aborder le contrôle des niveaux d'enrichissement en uranium, puisque pour un programme nucléaire civil auquel l'Iran assure se limiter, pas besoin d'enrichir l'uranium à plus de 3,67%, affirme Steve Witkoff. C'est justement le niveau maximal fixé par l'accord de 2015, dont Donald Trump s'est retiré en 2018. Witkoff a donc annoncé ne pas vouloir démanteler le programme nucléaire iranien, mais il veut contrôler les capacités d'armement atomique de Téhéran, autrement dit ses missiles. Une ligne rouge pour le régime iranien, les gardiens de la révolution l'ont affirmé aujourd'hui, les capacités militaires du pays ne seront pas en négociation.
Aux États-Unis, la prestigieuse université d'Harvard affronte Donald Trump. Conséquence, l'établissement se voit privé d'un peu plus de 2 milliards de dollars de subventions. L'administration du président menace également de retirer à l'université ses avantages fiscaux. Harvard avait refusé de se plier aux exigences de Donald Trump, qu'il accuse de laisser prospérer, de laisser grandir l'antisémitisme sur son campus. Un épisode qui relance le débat autour de la liberté académique aux États-Unis. En France, François Bayrou présente un sombre diagnostic des finances françaises. Le Premier ministre a lancé ce mardi des discussions pour parvenir à 40 milliards d'euros d'économies en 2026. Il alerte sur le piège de la dette, selon ses mots. Bonjour Victorien Villaume.
Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous.
François Bayrou promet des réponses d'ici l'été, tout en excluant, en écartant une augmentation des impôts des Français.
Oui, et un peu à la manière d'un maître d'école, François Bayrou, le Premier ministre, a fait défiler pendant à peu près 30 minutes des diapositives ce midi. Les Français ne travaillent et ne produisent pas assez, dit-il, et notre dette pèse de plus en plus lourd sur le budget.
Une nouvelle courbe s'affiche sur vos écrans. Toutes nos marges de manœuvre, notre capacité d'action ne cesse de se réduire. La charge de la dette est cette année de 62 milliards, c'est-à-dire d'ores et déjà similaire au montant des crédits consacrés à notre défense.
Bien conscient que toute la classe politique ne partage pas ce discours très macroniste, très proche d'Emmanuel Macron, sur le travail et sur la production, le chef de gouvernement tente de convaincre.
Si nous avons les yeux ouverts, alors nous devons constater qu'en fait nous n'avons pas le choix et que nous devons agir pour garantir la survie de notre modèle social.
Alors avant cette conférence de presse où des ministres, des députés et des syndicats étaient présents, Margot, une réunion à huis clos était organisée, mais sans François Bayrou à la surprise générale. « J'ai l'impression d'avoir été figurant d'une opération de communication », nous a confié l'insoumis Éric Coquerel, membre de la commission des finances.
Le tout était de nous dire qu'il y a un ouragan, un cyclone, un tsunami et qu'il importe de continuer la même politique que précédemment, en réduisant les dépenses publiques et en faisant une politique de l'offre. Et en plus, pour pas annoncer grand-chose.
Les grandes orientations du gouvernement autour du budget 2026 ne seront annoncées que d'ici juillet prochain.
C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute de RFI.